Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous voici de nouveau ensemble ce soir pour la suite du roman de Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne. Isabelle Huppert nous dit que Carax lui envoyait par coursier des kilos de livres sur la finance et des fichiers audio où, de sa voix traînante, il enregistrait pour elle ses réflexions sur la crise mondiale et la façon dont il la voyait jouer le rôle de la présidente du Fonds monétaire international. Ces enregistrements, dit-elle, étaient extraordinaires. Il y décrivait la vie de celle qu'il appelait la présidente du monde de la finance dans ses moindres détails. Ses régimes alimentaires, ses habitudes sexuelles, les journaux qu'elle lisait, tout y était précisé avec une minutie folle, comme dans un roman. Il se dégageait d'Isabelle Huppert un charme qui pouvait sembler dur. Mais lorsqu'elle souriait, on voyait apparaître sur son visage cette tendresse inquiète qui appartient aux solitaires et qu'ils sont habitués à garder pour eux. Ceux qui vivent dans un désert ont des acuités qui les guident brutalement. Le reste du temps, ils méditent. Parce qu'elle n'attendait rien des autres, elle pouvait s'intéresser à eux librement. Ainsi vivait-elle en dehors des tournages, dans une apesanteur qui rendait possible l'improvisation et les rencontres. Pointel semblait rire avec elle de toutes ces folies dans lesquelles ils s'étaient embarqués. Visiblement, ils avaient déjà fait des films ensemble, des productions internationales dont ils gardaient un souvenir mitigé. Mais la perspective du film de Carax les comblait comme deux adolescents qui ont trouvé un jeu parfait. Lena Schneider ne participait pas à la conversation. Comme moi, elle se contentait d'observer et d'écouter. Je la regardais à la dérobée. Son beau visage blanc était concentré. Malgré l'ivresse, j'étais plein de désir. Saba fit soudain irruption, sa tête sortit de sous la banquette, puis il posa ses pattes sur les cuisses de Lena, qui avait l'air ravie. « Il est à vous, ce chien ? » dit-elle, en lui caressant la tête. « Bah non, il n'est pas à moi, c'est une histoire compliquée. »« Et vous, dis-je en désignant sa fourrure, c'est du dalmatien ?»« C'est du toc, » répondit-elle en souriant. Je n'ai pas massacré de chien pour me faire un blouson. Vous savez que les dalmatiens sont des animaux sacrés? Ce sont les chiens que Pan offrit à Artémis. Un dalmatien n'appartient jamais vraiment à son maître, mais toujours à la déesse de la chasse. C'est vous la déesse? Le rire de Lena était cristallin, comme celui des enfants. Je pensais à ses larmes au téléphone, à l'évidence passionnelle qui animait cette femme. Artémis, dit-elle, est la fille à qui son père donne tout. Il dit oui à tous ses désirs, il la comble. Elle veut disposer de toutes les montagnes, elle veut l'arc et les flèches, elle veut plusieurs noms, une torche pour chasser les bêtes sauvages et une escorte de nymphes. Pourquoi plusieurs noms ? Pour défier son frère. Je ne comprenais pas. Apollon. Vous imaginez avoir Apollon comme frère ? Lorsque Artémis, encore sur les genoux de Zeus, lui demande plusieurs noms, c'est parce qu'elle sait que le véritable privilège réside moins dans la connaissance, réservée à Apollon, que dans la multiplicité. Chaque nom est un morceau de cette étincelle qui allume la souveraineté du dieu. Je demandai à Léna quels étaient les noms d'Artémis. Elle fit alors en souriant le geste de pointer l'index sur ses lèvres pour intimer le silence. C'est un geste ancien. Le geste, précisément, d'une déesse. J'étais allé trop vite. On ne pose pas une telle question. Soit on connaît les noms, soit on les découvre seuls. Ceux qui ont assisté au mystère rient et pleurent, comme tout le monde. En quelques minutes, j'avais vu Léna faire les deux. Mais eux seuls peuvent dire la nature de leur rire et celle de leurs pleurs, car ceux-ci vivent une vie autonome, une vie qui se déploie à travers des signes échangés derrière le voile, une vie parfaite. Cette femme avait la tête mystiquement alvéolée, j'en étais sûr. Elle savait que la vérité ne s'échange pas comme un bien culturel à quoi l'on met une étiquette et un prix. Et puis j'aimais bien cette manière abrupte, sérieuse, qu'elle avait de parler. À travers sa voix, je pressentais un paysage de braise et de bois lunaire. Je la voyais circuler la nuit entre des feuillages jusqu'à des eaux lentes ombragées de saules et de peupliers. De très vieilles phrases me venaient à son propos, des phrases antiques où se blottissent des théophanies. « Elle a les dieux dans le sang », me disais-je. « Elle abrite une solitude qui la rend présente au mystère. » Bref, Léna Schneider me faisait divaguer. Même si j'étais ivre, c'était un bon début. Elle m'expliqua qu'elle dirigeait le musée de la chasse et de la nature, et dans le cadre d'une exposition consacrée à un photographe américain, un certain George Shiras, qui, il y a presque un siècle, avait trouvé une technique pour photographier les animaux de nuit, elle offrait à Isabelle Huppert une carte blanche. Ce photographe, dit-elle, était un chasseur. C'était assez incroyable et en même temps logique. Il avait remplacé le fusil par l'appareil photographique. Au moment de photographier, il était encore et toujours un chasseur, comme nous le sommes tous, lorsque nous cherchons la bonne image. Vous savez, dit-elle, au moment de chasser, le chasseur donne un nom à sa proie. Le nom d'une personne aimée qui rendra propice la chasse et fera d'elle un sacrifice réussi. Eh bien, je crois que c'est la même chose avec l'art. Elles décidèrent finalement de manger à notre table. Isabelle Huppert commanda de la viande crue, une sorte de tartare sans aucune préparation, qu'on lui servit comme elle l'avait demandé, dans une assiette creuse, et qu'elle avala avec une brutalité stupéfiante. Quant à Léna Schneider, elle prit le casting d'huîtres que j'avais convoité plus tôt dans la soirée. On nous apporta une nouvelle bouteille de champagne et nous trinquâmes, tous les quatre, à la chasse, aux déesses et aux étranges metteurs en scène. Pointel s'était un peu affaissé au fur et à mesure de mes récits, mais l'arrivée d'Isabelle Huppert lui avait redonné de la vivacité et même une forme de jeunesse. Il proposa que nous allions prendre un verre ailleurs. Mais Isabelle Huppert trouvait qu'on était bien ici. « Comment va Michael ?» me demanda-t-elle. Je racontai à Isabelle Huppert que Simino était devenu un sorcier, un chaman, quelqu'un qui fait exister le cinéma dans l'invisible. Je décrivis sa dégaine et le bon tour qu'il avait joué au douanier de New York. Mais je ne saurais dire si cette histoire avec la statue de la liberté que je racontais en détail l'amusa ou l'angoissa. Elle l'avait revu il y a quelques années à l'occasion de la sortie de La Porte du Paradis en version longue. Elle s'était retrouvée à l'accompagner dans différentes villes d'Europe et se souvenait qu'il se levait à l'aurore pour lire Tolstoï. 2 heures par jour de guerre et paix valent mieux que tous les coachs, disait-il. Elle raconta aussi qu'il avait un régime alimentaire des plus absurdes qui compliquait considérablement son emploi du temps. Par exemple, comme il buvait des mojitos le matin et que dans les hôtels le barman n'arrivait pas avant midi, il fallut acheter chacun des ingrédients pour que Michael Cimino fît lui-même sa boisson et pût en ingurgiter autant qu'il voulait dès 8 heures du matin. J'aimais bien la manière affectueuse dont Isabelle Huppert parlait de lui. Et même lorsqu'elle évoquait ses bizarreries vestimentaires. Le pantalon de cuir brun, le Stetson, couleur crème et les gants beurre frais, c'était toujours avec tendresse. Il a cette élégance fabuleuse, dit-elle. Cette chose en plus difficile à définir qu'ont certains grands artistes et qui est une forme de noblesse. C'est dommage qu'il ne tourne plus, ajouta-t-elle. Je dis qu'au contraire, seul Cimino faisait encore du cinéma, pensait au cinéma, vivait le cinéma, lui et Godard, disons. Cimino n'avait plus besoin d'un écran pour accomplir son œuvre et même, en un sens, l'écran était devenu un obstacle à ses visions. Car c'était avant tout quelqu'un qui avait compris que le feu a disparu, dis-je. Le feu qui animait les humains n'existe plus. Cimino le sait. Il est même l'un des rares à le savoir. Il y a eu du feu, et ce feu a traversé Robert De Niro, Christopher Walken ou Meryl Streep dans The Deer Hunter. Il a enveloppé dans son immense flamme le monde des immigrés d'Europe de l'Est dans La Porte du Paradis et les a portés jusqu'au massacre final. Il a donné sa volonté de vivre, son intensité, son innocence à Ella Watson, votre personnage, dis-je à Isabelle Huppert. Mais aujourd'hui, le feu a tari comme une vieille source. Tandis que toutes les civilisations étaient fondées sur l'idée de garder le feu, notre civilisation est celle de l'extinction. Elle a horreur que ça brûle et s'est arrangée pour que le feu meure. Pour que nous vivions au milieu des cendres.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne. Isabelle Huppert n'était pas d'accord. Il y aura toujours des êtres qui sauront allumer pour nous ce feu, dit-elle. Le monde, je ne sais pas, peut-être avez-vous raison, peut-être est-il mort. Mais il y a des gens incroyables. Des êtres singuliers qui existent. Et ce ne sont pas forcément les plus spectaculaires. Certains d'entre eux sont discrets. Ils s'expriment peu. Et parfois même, ils sont imperceptibles. Avec eux, croyez-moi, votre feu, même s'il est invisible, il ne s'éteindra pas. Il n'y avait plus personne dans le restaurant. Les serveurs avaient débarrassé les tables et dressé celles du lendemain. Les serviettes blanches parfaitement repassées scellaient dans chaque assiette une absence qui s'étendait à la salle entière, tout à l'heure si criarde et à présent mélancolique, comme si l'ombre qui était descendue sur nous et enveloppait nos visages encore éclairés de petites lueurs vacillantes était venue se réfugier ici au creux de chaque assiette pour la nuit. La verrière, l'aquarium, les lampes aux abat-jours jaunâtres avaient pris eux aussi des teintes plus sombres, comme si leurs couleurs tombaient. Elles avaient abandonné peu à peu leur éclat pour entrer l'une après l'autre dans le sommeil. Je savais déjà que je ne rentrerais pas chez moi. La nuit m'appelait. Il me semblait qu'elle m'avait accueilli depuis des heures et qu'elle ne me lâcherait pas. J'allais traverser cette nuit, et tant pis si, à un moment ou à un autre, je m'écroulais. Parfois, faiblesse et euphorie coïncident. Macron s'approcha de notre table. Nous pouvions rester tant que nous le voulions, la maison était honorée d'accueillir une si grande actrice, dit-il. Et il nous offrait personnellement des digestifs. Isabelle Huppert accepta l'honneur avec gentillesse. Elle demanda une poire. Léna Schneider, une vodka. Pointel et moi reprîmes de l'armagnac. C'est au moment de trinquer en levant son verre où venaient briller les derniers éclats de cette soirée qu'Isabelle Huppert a soudain tendu l'index vers la fenêtre. « Regardez !» Nous avons tous tourné la tête, même Saba, dont le museau s'était aligné impeccablement sur la ligne formée par le bras tendu d'Isabelle Huppert. Elle désignait la silhouette là-bas sur le trottoir d'un type avec une dégaine de cow-boy et un Stetson sur la tête. Nous avons éclaté de rire. Et l'index d'Isabelle Huppert continua à flotter longtemps dans l'air. Après que la silhouette eut disparu, comme si l'ombre qui avait envahi la grande salle du restaurant commençait également à engourdir nos gestes qui déjà s'endormaient. Saba avait senti que nous allions partir. Il ne tenait plus en place. Je me suis levé et suis sorti avec lui quelques instants. Il était fou de joie et s'est mis à courir sur le trottoir entre les coquilles d'huîtres. J'ai allumé une cigarette. La glycine de l'autre côté de la rue semblait fraîche, accueillante, gorgée de cette humidité sombre où il fait bon glisser. Au fond, il était possible de vivre. Avec les récits, avec toutes les histoires contenues à l'intérieur des récits, on avançait, mine de rien, d'une île à l'autre. On faisait se rejoindre les commencements et la fin, on allait mieux. Dans le pire des cas, je pourrais toujours entrer dans ce feuillage là-bas et reprendre mes esprits sous cette cascade de fleurs. Il n'y avait pas que ma chambre. Il y avait d'autres lieux où l'on pouvait respirer. Le mouvement de cette soirée me prodiguait un peu d'espoir. Car en vérité, j'étais surtout sorti du restaurant pour regarder Lena Schneider. Assis à côté d'elle, je n'arrivais pas à bien voir son visage. Et voici qu'à travers la vitre de chez Bofinger, malgré la pénombre qui entourait son corps ainsi que celui de Pointel et celui d'Isabelle Huppert, le cercle qu'ils formaient tous les trois m'apparut comme un foyer incandescent. Comme si c'était eux qui éclairaient la nuit. La lumière qui continuait malgré tout à briller dans Paris venait de ces trois personnes penchées l'une vers l'autre. Isabelle Huppert avait raison. Le feu existe, il était là. Cette nuit, de l'autre côté de la vitre. Léna se redressa sur la banquette en souriant, se mit à rire, et au moment où elle releva ses cheveux, qu'elle fixa en chignon, je vis apparaître sa nuque. Son visage, soudain libéré, s'offrit à moi. Vertical et nerveux, comme celui d'un cheval blanc. Son visage était immense, aussi large qu'un glacier. Je sentais bien qu'il me faudrait des années pour explorer un territoire dont la blancheur me semblait plus éblouissante encore que lorsque je l'avais découvert. Une blancheur laiteuse, comme la neige balayée par le vent sur les prairies des Indiens de l'Ouest, et qui, comme la nacre, prenait des teintes bleues ou étincelait des émotions violentes. Je me suis approché de la vitre pour mieux voir. J'étais comme aspiré par ce visage. Je pensais à la robe immaculée que revêtent ceux qui sont sauvés dans l'Apocalypse de Jean. Ce vêtement illuminé de flammes blanches qui lance les élus jusqu'au trône sur lequel est assis le Très-Saint et qui les enveloppe dans une écume de gloire. Et puis, en contemplant le visage de Lena Schneider, je bandais comme un dingo. Elle s'est tournée vers moi, nous nous sommes regardés longuement. C'était comme si elle voyait mon érection. J'allais être changé en cerf, sans doute l'étais-je déjà, et des bois poussaient autour de ma tête comme une forêt de phallus au bord de giclées qui bientôt serait tranchée par ses chiens. Elle me sourit. Les autres se retournèrent vers moi. Isabelle Huppert me fit un petit salut de la main. Je rentrai auprès d'eux avec Saba. Le cheval Visconti. Isabelle Huppert était en train de raconter le tournage de La Porte du Paradis. En avril 1979, à peine était-elle descendue de l'avion que Cimino l'avait conduite en 4x4 dans un authentique bordel du Wyoming. Il y avait avec elle Anna Thompson, l'actrice qui a joué plus tard dans « Sue, perdu dans Manhattan » et qui est devenue sa grande amie. Il savait rouler des heures, les montagnes se déployaient dans le ciel avec leurs cimes enneigées, et tout en conduisant, Cimino expliquait à Isabelle Huppert, assise à son côté, qu'il ne voulait rien laisser au hasard. Comme elle devait jouer la patronne d'une maison close, il fallait qu'elle apprenne à se comporter comme une vraie patronne. « Faudra-t-il que je couche avec ces messieurs ?» avait-elle demandé par provocation. À l'arrière, Anna contenait un fou rire. et l'assistant de Simino était gêné. Quant à Simino lui-même, il ne broncha pas. Il était toujours sérieux, doux et sérieux. Il répondit à Isabelle que ce ne serait pas nécessaire, il lui suffirait d'observer. Anna avait alors explosé de rire, et tandis que le 4x4 traversait les paysages étincelants des Rocheuses, je me demandais, dit Isabelle Huppert, si je n'avais pas fait une erreur colossale, en me laissant emporter dans le délire de cet homme qui n'avait cessé pendant des semaines de m'appeler la nuit au téléphone sans penser un seul instant au décalage horaire. J'avais accepté le rôle tout de suite, mais il continuait à m'appeler. Son idée, c'était qu'un film ne commence pas seulement au premier jour de tournage, c'est une expérience. The Events Gate Experience, comme il l'appelait. Et lorsqu'à 3h du matin, le téléphone sonnait, je savais que c'était lui et qu'avec un enthousiasme qui rendait impossible qu'on le rabrouât, il allait me raconter un épisode de l'histoire de l'Amérique qui éclairait son projet ou m'expliquer en détail une scène fondamentale dont je pouvais d'ores et déjà, si je le désirais, méditer les enjeux psychologiques. Sauf qu'après ce coup de fil, il était impossible de me rendormir. Simino avait vraiment réussi à m'enthousiasmer. J'étais surexcité. Et quand j'arrivais quelques heures plus tard sur le tournage de Loulou de Piala sans avoir dormi et que Depardieu débarquait avec une tête effrayante parce qu'il avait fait la tournée des bars, Piala nous engueulait en hurlant qu'avec des acteurs pareils, il ne fallait pas s'étonner si le cinéma français était foutu. Et Depardieu et moi, nous courions cacher notre fou rire dans la caravane de maquillage. À l'époque, dit Isabelle Huppert, Michael n'était pas du tout l'homme d'aujourd'hui. Bien sûr, c'était déjà un génie. Se dire Hunter avait changé l'histoire du cinéma. Et puis il était déjà obsessionnel, complètement fanatique, avec une vision de son film aussi précise qu'un poème et une exigence que les producteurs prenaient pour de l'arrogance. Mais physiquement, c'était un autre homme. Rondouillard, avec des pulls informes et une épaisse tignasse noire. Et puis il passait son temps à manger. On a raconté des choses aberrantes à propos du tournage. On a dit par exemple qu'il se faisait livrer des kilos de cocaïne par hélicoptère. Mais Michael, ce n'était pas la drogue qui l'intéressait, c'était la bouffe. Toutes ces histoires ont été inventées par les producteurs à cause de la ruine du studio. Ils ont fait porter le chapeau à Michael, ils avaient intérêt à ce qu'on le prenne pour un tyran mégalomane, pour un junkie incontrôlable. Depuis la fenêtre de ma chambre au premier étage de la petite maison close, nous dit Isabelle Huppert, je voyais les montagnes rocheuses et l'immensité du ciel qui était toujours bleu. Il y avait un grand jardin derrière la maison, tout vert, avec des arbres fruitiers, des cerisiers, je crois, et un grand pommier isolé en plein milieu du terrain. Et puis, dans la prairie voisine, un cheval, à la robe alezane, approchait sa tête rousse par-dessus la clôture. Nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Yannick Hennel, Tiens ferme ta couronne, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.